Sud Radio, vos animaux, à l'état sauvage.
Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Pierre Rigaud. Bonjour Pierre.
Bonjour Natacha.
Pierre, vous êtes naturaliste, vous êtes membre de la Société française d'études et de protection des mammifères. Et avec vous, on va parler ce matin d'un oiseau qu'on aime beaucoup, qu'on aime voir revenir dans nos contrées. Il s'agit des hirondelles. On a plusieurs espèces d'hirondelles en France.
5 espèces d'hirondelles en France. Alors, il y en a 2 qui sont plus connues que les autres parce que ce sont celles qu'on voit près des maisons, celles qui côtoient un peu les humains, qui sont l'hirondelle de fenêtre et l'hirondelle rustique, aussi appelée hirondelle de cheminée.
Comment on arrive à faire la distinction entre les deux?
Alors, l'hirondelle rustique ou de cheminée, c'est celle qui a la très longue queue, qu'on appelle les filets, qui sont en fait 2 plumes très très longues sur les côtés, un peu comme une fourche. Ça se voit très bien en vol. Elle a la gorge plus rouge foncé. Et l'hirondelle de fenêtre, elle a la queue plus courte et elle a le croupion blanc. Ça se voit très bien en vol.
Mmh. Elles ont des habitats qui diffèrent l'une et l'autre?
Toutes deux sont liées aux humains. Alors, c'est assez drôle parce que dans l'histoire, évidemment, avant qu'il y ait des humains, il fallait bien qu'elles nichent quelque part.
C'est ça.
Donc, probablement que c'était à l'entrée des grottes, dans des trous d'arbres. Mais maintenant, alors, à la fois l'hirondelle de fenêtre peut nicher sur les falaises, mais aussi sur les bâtiments humains. Donc. Et puis l'hirondelle rustique, alors elle est complètement liée à nous. C'est-à-dire qu'elle vit près de nous. Et c'est elle qu'on voit rentrer pour faire son nid à l'intérieur des granges, parfois des greniers, dans les maisons, même dans les garages.
Alors évidemment, le printemps, c'est le moment du retour de ces hirondelles. Elles font un très très long parcours. D'où viennent-elles?
Alors ça dépend du point de vue où on se place. Parce que si on était africain, on dirait que ce sont des oiseaux d'Afrique qui vont aller se reproduire en Europe.
Oui.
Et puis nous,
mais comme on est français.
Voilà, on se dit que ce sont des oiseaux qui se reproduisent en Europe et qu'on voit partir, qui disparaissent en automne pour aller passer l'hiver en Afrique. Alors les populations d'hirondelles rustiques, par exemple, d'Europe de l'Ouest, donc de la France, passent l'hiver en Afrique de l'ouest au sud du Sahara.
D'accord. Alors,
ce qui est marrant, c'est qu'il y a des hirondelles qui nichent au printemps plus au nord en Europe, en Scandinavie par exemple, et qui vont hiverner plus loin, en Afrique du Sud.
Ah oui.
Et puis, il y a même des hirondelles rustiques, les mêmes qui vivent en Amérique du Nord et qui vont passer l'hiver en Amérique du Sud. Donc, pour celles qu'on voit revenir en ce moment, qui sont là depuis quelques semaines, elles ont passé l'hiver dans les pays juste au sud du Sahara. Donc, ça fait quand même à peu près 5000 kilomètres de parcours. Hein.
C'est ça, un très très long parcours. C'est assez surprenant d'ailleurs, ce phénomène migratoire. D'abord, par quoi est-il déclenché?
Alors, chez les passereaux en général, chez les oiseaux en général, c'est une horloge interne qu'elles ont, si on peut dire ça, c'est-à-dire essentiellement la variation de la durée du jour. Alors tout ça est inscrit génétiquement, et puis il y a les facteurs environnementaux immédiats, conjoncturels si je puis dire, qui font que, par exemple, avec le réchauffement climatique, d'ailleurs, les hirondelles arrivent un petit peu plus tôt chaque année. Donc il y a des conditions, le fait qu'il fasse plus chaud.
Ça a été objectivé. On s'est rendu compte que l'impact du réchauffement climatique avait des conséquences justement sur ce phénomène migratoire.
Oui, parce que les hirondelles font partie des oiseaux qui sont assez suivis. Comme elles sont faciles à voir, il y a beaucoup d'observateurs qui notent les dates d'arrivée. Mm-hmm. Donc on peut avoir comme ça des comparatifs sur plusieurs années, voire plusieurs décennies, et observer ces changements. Mais elles continuent à migrer. Et le fond de leur motivation, si je puis dire comme ça, est vraiment inscrit en elles. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas de, comme ça, quelques années pour qu'elles changent radicalement leur migration. Elles continuent à partir en automne et à revenir au printemps. Simplement, c'est un petit peu modifié dans les dates. Mais c'est en elles qu'elles ont ce trajet inscrit, et qui est un trajet complètement dingue, parce que c'est des oiseaux qui pèsent moins de 20 grammes et qui vont partir comme ça en faisant plusieurs centaines de kilomètres par jour. Alors, elles ne volent que le jour, semble-t-il, sauf exception, les hirondelles, ce qui n'est pas le cas de plein d'oiseaux. Il faut savoir que plein de petits oiseaux, plein de passereaux migrent la nuit.
La plupart, d'ailleurs, des oiseaux migrent la nuit.
La plupart migrent la nuit. Alors, les hirondelles qu'on aime voir voler, en plus, elles pépillent, elles font leur petit bruit, donc on les voit assez facilement passer en migration en journée. Elles se posent le soir. Alors, il semblerait que quand il y a des grandes zones compliquées à traverser, où surtout il est difficile de faire halte, elles puissent aussi voler la nuit. Mais elles font, par exemple, le Sahara, parce que c'est quand même pas rien pour un oiseau comme ça de traverser le Sahara. Et elles se reposent la nuit, elles repartent le matin.
Et ce phénomène donc migratoire, il nous impressionne forcément. Comment trouvent-elles l'énergie pour faire cette traversée?
Alors, l'énergie, c'est manger. Donc, mais la difficulté pour un passereau, c'est qu'on ne peut pas faire des réserves corporelles immenses, parce qu'évidemment, il faut pouvoir voler, donc pas être trop lourd au moment de voler, ce qui est le cas inverse des mammifères qui, eux, peuvent avoir des réserves sur eux. Bon, les oiseaux, c'est compliqué. Donc, quand même, ils augmentent un petit peu de poids, c'est-à-dire ils se nourrissent beaucoup avant, mais ils peuvent aussi se nourrir pendant les haltes migratoires, ils font leur petite pause. Et les hirondelles, l'avantage, c'est qu'elles se nourrissent en vol, contrairement à d'autres petits passereaux. Donc, elles passent énormément de temps dans leur vie à voler et leur proie, qui sont des tout petits insectes, elles les capturent de toute façon en vol. Donc elles peuvent espérer
trouver un petit
peu.
C'est peut-être aussi pour cette raison qu'elles volent plutôt de jour.
Peut-être, mais je vous avoue qu'on n'a pas la certitude de savoir pourquoi elle, c'est plutôt de jour, contrairement à la plupart des passereaux. Alors pour le cas des grands oiseaux, c'est différent. Par exemple, les rapaces, qui sont des planeurs, qui ont besoin des courants thermiques ascendants. Donc eux, pour pouvoir faire de très grandes distances, quasiment sans avoir à battre des ailes, qui profitent des courants, donc eux, ils ont besoin de migrer lorsqu'il fait jour. Mais pour les cas des oiseaux qui ont un vol actif avec des ailes qui battent en permanence, comme c'est le cas des hirondelles, bon, on n'est pas complètement certain, donc on peut faire des hypothèses. En effet.
Elles font des haltes, des pauses sur le parcours?
Elles font des pauses, alors elles font des pauses là où elles peuvent, parce qu'elles n'aiment pas trop se poser par terre, les hirondelles, on le sait, oui. Elles ne sont pas très à l'aise, elles ont des pattes assez courtes, il faut vraiment qu'elles aient besoin de le faire pour se poser par terre.
Donc, déjà, il y a la traversée de la Méditerranée quand même, qui n'est pas simple.
Pas simple du tout. Alors, c'est pour ça d'ailleurs qu'on voit parfois des passereaux qui se retrouvent sur des bateaux en mer, parce qu'ils trouvent ce qu'il y a.
C'est pratique.
C'est pratique, pas une petite pote. Mais sinon, alors, il y en a une partie qui passe par l'Espagne et le détroit de Gibraltar. La plupart des rapaces passent par là. Mais les hirondelles, en fait, traversent aussi la Méditerranée entièrement. Ça veut dire que ça doit être un vol d'une traite. Donc quand même plusieurs centaines de kilomètres d'un coup. Et après, c'est pas fini, parce qu'il y a le Sahara en plus. Mm-hmm. Ça fait quand même deux obstacles très différents. Donc quand elles peuvent se poser, elles le font. Et dans le désert, il y a des images comme ça assez étonnantes d'hirondelles qui sont posées sur des petites brindilles, juste des petites choses qui dépassent du sol, parce qu'elles font comme elles peuvent. Mais enfin, elles y arrivent assez bien globalement, mais avec beaucoup de pertes. Il y a beaucoup d'oiseaux qui meurent en cours de route, hélas.
Alors, on a bien compris, donc, l'impact du réchauffement climatique modifie un peu leur période migratoire. Est-ce que ça modifie aussi les zones où elles s'en vont, où elles reviennent, en choisissant peut-être des régions plus tempérées, parce qu'elles n'ont plus besoin d'aller très très loin?
Pour l'instant, le trajet reste globalement le même, avec quand même quelques hirondelles, quelques individus qui vont moins loin ou qui même restent parfois en Espagne ou en Europe du Sud. Mais la plupart ont encore ce trajet inscrit en elles qui est si fort qu'elles continuent à aller dans les mêmes régions. Et ça peut être d'ailleurs dangereux pour elles parce que il y a les risques dans leur vie. C'est compliqué la vie d'une hirondelle finalement. Il y a les risques dans leur vie de printemps, mais il y a aussi les risques de leur vie, dans leur vie d'hiver, avec aussi de la prédation, plein de menaces là où elles vont passer l'hiver. Donc tout est compliqué en fait pour une hirondelle. On est très content de les revoir, mais la migration c'est compliqué, l'hivernage c'est compliqué, le retour c'est compliqué, et après il faut revenir se reproduire et c'est un autre défi qui commence. Hein.
Tout est compliqué, leur vie est un...
leur vie est un
une accumulation de défis. Et elles volent en groupe, en famille, comment,
en groupe.
Est-ce qu'on sait comment s'est organisé justement tout cela?
Eh oui, on les voit se rassembler en automne, et ouais. C'est pas une légende de voir les hirondelles sur les fils. Entre parenthèses, on demande souvent, est-ce que c'est vraiment nécessaire qu'il y ait des fils électriques pour que les hirondelles se rassemblent en automne avant de partir? Bon, il y avait des hirondelles avant qu'il y ait des fils électriques, et en fait, quand il n'y en a pas, elles arrivent à se poser sur des branches, sur des bords de toit, etc. Effectivement, c'est en groupe plutôt qu'elles migrent. Donc on voit passer des bandes assez lâches, je dirais. C'est pas des groupes très très serrés, mais elles migrent plutôt en groupe ou toutes seules, parce que finalement elles n'ont pas forcément besoin de leurs congénères pour trouver le trajet, grâce à tous les moyens dont disposent les passereaux pour avoir pour se repérer en fait dans l'espace.
Et on dit souvent que les hirondelles reviennent toujours dans leur nid. Est-ce que c'est exact?
Dans l'endroit où elles sont nées. Le nid, peut-être pas précisément le nid, mais ça peut être la maison, ça peut être le quartier.
Donc, c'est si précis que ça.
C'est si précis que ça. Ça ne marche pas à 100% dans 100% des cas. Mais c'est dans l'endroit d'où elles viennent qu'elles vont revenir. Alors, ça, c'est un truc de fou quand même.
Ça, c'est quand même phénoménal.
Ouais. Ça marche pas à tous les coups, mais il y a quand même une fidélité au site en fait, de reproduction.
Et ça m'amène à une autre question. Quel est le statut des hirondelles? Ce sont des animaux protégés. On a le droit de toucher à leur nid ou pas? Parce que quand même, il faut reconnaître que parfois, elles se mettent dans des endroits où quand elles reviennent, on est très content de les voir revenir, mais on a un tas de déjections en dessous. Mmh. C'est pas toujours aisé à gérer.
C'est pas aisé. Bah, c'est un peu le revers de la médaille. On est content de les voir parce qu'elles se sont complètement adaptées aux bâtiments humains. Mais alors, finalement, elles en sont devenues tellement dépendantes, en tout cas pour les hirondelles rustiques, qu'elles elles n'ont pas d'autres endroits où nicher. Les hirondelles de fenêtre, elles peuvent aussi nicher sur les falaises, mais ça, il n'y en a qu'en montagne, il n'y en a pas partout. Alors, donc, quand elles viennent dans les maisons, elles font des fientes, évidemment. Alors, c'est toujours la préoccupation. Ce n'est pas évident. Je ne vous cache pas qu'il y a des petites astuces qui consistent, par exemple, à mettre sous le nid
une
petite planchette. Ouais. Ça retient une partie des fientes, mais il y en aura aussi autour, parce que quand elles arrivent à leur nid, bah, elles font quand même un petit tour autour du nid, et donc elles sont quand même dans le bâtiment. Donc,
mais vous nous confirmez qu'on n'a pas le droit de les retirer?
Ah, on n'a pas le droit. Non, parce que les passereaux de manière générale, la plupart des petits oiseaux sont protégés par la loi, et leurs œufs et leurs nids. Alors évidemment, la plupart des autres passereaux, un pinson des arbres, il fait son nid, il construit des petites brindilles, et l'année suivante, il ne réutilise pas le même. Mmh. Donc l'hiver, on voit un peu des déchets de nid dans un arbre, et là, si vous l'enlevez, ça ne changera rien, puisqu'il ne sera pas réutilisé. Mais les hirondelles, qui passent beaucoup de temps à le construire en prenant de la boue, et en construisant en fait cette architecture...
Oui, c'est un nid qui est fait quoi ? D'herbe et de boue, c'est ça ?
Oui, oui. Alors c'est là qu'elles vont se poser au sol, souvent au bord d'une flaque, sur les chemins.
Oui.
Donc c'est important d'avoir aussi ce genre de petits endroits autour d'une maison, d'un bâtiment, d'une ferme. Si vous souhaitez accueillir des hirondelles, laissez ces petits endroits de boue, où elles vont avec leur bec prélever un petit peu de boue, et comme ça... Spatule par spatule, tel un maçon, en fait, construire ce nid.
C'est quand même un travail remarquable.
Remarquable, puis c'est très long. Donc, c'est aussi pour ça qu'elles sont fidèles, on suppose, à leur site de nidification. C'est pour avoir de fortes chances de retrouver au printemps un nid qui est déjà prêt, en fait, qu'elles ont plus éventuellement...
Elles se font jamais piquer leur nid par une autre ?
Ah si, il y a des petites batailles, on voit dans les granges.
Le monde de l'hirondelle n'est pas un monde parfait, on est d'accord.
Ça bastonne, ça crie dans tous les sens, parce que c'est mon nid, non, c'est pas le tien, etc. Mais grosso modo, les colonies sont assez pérennes dans le temps, parce qu'il y a
Il y a des logements pour tout le monde.
Et oui, parce que si elles devaient à chaque fois reconstruire tous les nids, ça prendrait un temps fou. C'est long. Quand on les voit construire le nid, c'est assez long à faire. Il faut des jours, ça dépense beaucoup d'énergie. Donc, voilà.
Parce que donc, quand elles arrivent, elles viennent pour se reproduire.
Oui.
La reproduction a lieu à peu près combien de temps après leur arrivée sur notre territoire ?
Dès qu'elles arrivent, elles ne perdent pas de temps. C'est pour ça que généralement, d'ailleurs, les passereaux qui reviennent...
Parce qu'il faut construire le nid, enfin, vous voyez, c'est un peu...
Ils sont assez pressés de revenir. Autant quand elles partent, elles quittent peu à peu l'automne qui arrive,
ouais,
et l'hiver qui arrive. Mais quand elles reviennent, elles commencent direct à se reproduire assez rapidement. Et donc, elles vont même pouvoir enchaîner éventuellement 2, voire 3, exceptionnellement 4... nichée, c'est-à-dire que la femelle pond...
Il n'y a pas qu'une seule nichée ?
Il n'y a pas toujours qu'une seule nichée. Non,
vous m'apprenez un truc.
Elles essayent d'en faire le maximum. Bon, souvent, c'est une ou deux.
Oui.
Voilà, mais ça arrive que ça soit jusqu'à 3, voire 4 exceptionnellement. Et
il y a combien d'œufs à peu près à chaque fois ?
5-6 œufs ou 4-5 œufs. Alors, parce qu'en fait, c'est une stratégie de reproduction qui est mise sur la quantité, si on peut dire, parce qu'il y a hélas une partie... des jeunes hirondelles ou des hirondelles adultes qui vont mourir au cours de la migration, qui vont être tuées par tout un tas de prédateurs ou de causes. Et donc, elles essayent de faire le plus possible de petits. Et c'est pour ça que c'est un travail acharné qui consiste à les nourrir, ces petits. Mm-hmm. Et quand on a l'occasion de voir ça chez soi, c'est incroyable. Le balai incessant, ouais, des hirondelles qui viennent apporter...
Qui nourrit ? C'est le papa et la maman ou...
Les deux.
Les deux.
Les deux. C'est pas de trop. Parce qu'il faut vraiment apporter sans cesse la béquille, en fait, toute la journée. Et puis en plus, comme elles chassent des oiseaux, comme elles chassent des petits insectes en vol. Elles sont très dépendantes du temps qu'il fait.
Mm-hmm.
Une journée de pluie, c'est une journée de
disette.
Grève de la faim pour les petits.
Ouais.
Enfin, pas grève de la faim, parce qu'ils n'ont pas choisi de disette, exactement. Donc, s'il y a un temps pourri au printemps, pendant plusieurs semaines, ça peut être catastrophique pour les petits.
D'accord.
Donc, elles ont intérêt, dès qu'il y a un rayon de soleil, à aller chasser pour rapporter de quoi nourrir les petits. Puis une fois qu'ils ont quitté le nid, c'est assez rapide en fait. Hein. Il y a environ deux semaines le temps de couver. Ensuite, guère plus de 3 semaines pour l'élevage des petits. Et ils sont déjà en âge de voler. Ils sortent et là, rebelote, ils remettent le couvert, si on peut dire, quand c'est possible.
Mm-hmm.
Et puis à la fin de l'été, tout le monde se rassemble, jeunes et adultes, pour repartir en migration. Ça ne chôme pas une hirondelle. Enfin, ça chôme forcé quand le temps ne permet pas de sortir.
Est-ce qu'on peut agrémenter en fait leur environnement ? On sait qu'on a un nid à la maison, puis on veut leur donner un coup de main, ça sert à quelque chose ? Et si oui, qu'est-ce qu'il faut faire ?
Alors le mieux qu'il y a à faire, c'est faire attention aux chats.
Ouais.
Parce qu'il y a des chats redoutables, on en a vu qui attendent à la fenêtre et qui jettent la patte au moment où on passe l'hirondelle. Donc faire attention à ce que le nid ne soit pas accessible aux prédateurs de manière plus générale. Ne pas les déranger précisément.
Mais ça, c'est un peu à elles de savoir où elles font leur nid, non ? Elles doivent être habituées.
Oui, mais vous savez, comme justement...
Bon, on ne met pas l'échelle sous le nid pour que le...
Non.
Le
mais en fait, comme elles reviennent au même endroit, grosso modo, un nid qui a l'air bien en début de saison, elles ne savent pas forcément qu'une semaine après, il y a un chat qui va venir se balader dans le bâtiment à cet endroit-là. Donc, en fait, ne pas toucher au nid et surtout laisser la fenêtre ouverte quand vous avez décidé de peut-être... Je mets des guillemets, sacrifier une partie de pièce pour les hirondelles, parce que quand même, il y aura quelques fientes. Ça peut être un coin de garage, je ne sais pas. Mais surtout, ne pas fermer, parce que sinon, elles arrivent là, elles sont bloquées. Il y a des fois même des hirondelles qui sont bloquées à l'intérieur, parce que les gens partent en week-end et n'ont pas fait attention qu'il y avait un nid là. Donc, essayez de faire attention. En général, on les voit quand même, elles sont assez bruyantes, elles sont assez visibles.
Oui, on ne peut pas les louper quand elles sont là.
Si vous voulez les aider, il existe des nids tout près, en fait, qui sont vendus dans le commerce par des associations de protection de la nature.
Ce sont des vrais nids ?
Non, c'est des faux nids. Ça marche moyennement. Je ne peux pas vous dire que vous serez sûr qu'il y ait une hirondelle, mais parfois ça peut aider à installer une colonie qui va se dire, avec des pionnières qui vont se dire, tiens là, il y a déjà quelque chose, donc ça a l'air pas mal, on va s'y mettre. Alors bon, ça ne marche pas à tous les coups, ça peut aider. Si vous avez, par exemple, laissé la petite flaque de boue au bord du chemin sur l'accès de votre propriété, parce qu'elles vont venir chercher de la boue là pour faire leur nid. Donc les prédateurs, je pense que c'est vraiment le plus important. Et puis, alors après, il y a des préconisations beaucoup plus générales, puisque les hirondelles, hélas, disparaissent, et c'est pas exagéré de le dire, il y en a quand même.
Alors justement, c'était quand même une question aussi que je voulais vous poser ce matin. Quel est l'état de la situation des populations d'hirondelles ? Est-ce qu'on a un peu recensé ces populations pour voir leur évolution ces dernières décennies, puisque on sait que les oiseaux sont fortement menacés par un tas de facteurs. Est-ce que les hirondelles, elles aussi, sont concernées ?
Oui, hélas. Les hirondelles ne se portent pas bien, globalement. Alors, elles pâtissent de plusieurs facteurs, de plusieurs causes, qui sont essentiellement la difficulté de trouver des bâtiments, parce qu'avant, elles nichaient dans les bâtiments agricoles, les étables à l'ancienne et tout. Bon, maintenant, tout ça est remplacé par des hangars métalliques, ça leur convient plus. Donc, elles ont beaucoup de difficultés, de plus en plus, à trouver de quoi nicher. Là, je parle pour des hirondelles rustiques, surtout, qui nichent à l'intérieur des bâtiments. Les hirondelles de fenêtres qui nichent plutôt sur les façades extérieures, même en pleine ville, elles trouvent plus facilement. Donc, simplement, il ne faut pas détruire leur nid. Mais l'autre facteur très, très important, c'est la disparition de leur proie. Et comme elles mangent des insectes, eh bien, tout ce qui est pesticides et une certaine forme d'agriculture, c'est assez dévastateur. Parce qu'elles ne trouvent plus assez de quoi se nourrir. Donc, si on veut aider les hirondelles de façon indirecte, eh bien, essayer de privilégier en mangeant des produits bio, en tout cas sans pesticides, parce que c'est pas théorique, c'est très très concret. La chute des insectes, elle a été très très documentée scientifiquement, c'est qu'il y a de moins en moins d'insectes, et que donc les oiseaux qui mangent des insectes, eh ben, il y en a de moins en moins aussi.
Et puis, pas scientifique du tout, mais on le voit bien sur les pare-brises des voitures, il y a de moins en moins d'insectes aussi.
Absolument.
Et ça, c'est assez révélateur. Pierre Rigaud, merci infiniment. Pour ceux qui souhaitent plus d'informations sur la vie de nos campagnes, moi je conseille la lecture de votre ouvrage qui s'appelle « Ma campagne » justement, c'est aux éditions Belin. Vous êtes un puits de science en matière de vie sauvage dans nos campagnes françaises, nos forêts, voire même nos montagnes. Merci à vous Pierre d'être venu nous expliquer la vie un peu tumultueuse de nos amis les hirondelles.
Je vous remercie, avec
Allez,
plaisir.